Orient Press, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Press. Comme chaque samedi, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie de trois confrères. René Bachmann, qui est avec nous, du Nouvel Observateur. Christophe Ayad, du quotidien Libération, qui est en ligne par téléphone de sa rédaction. Et en ligne de Jérusalem, Emmanuel Alperin, de la télévision publique israélienne.
Orient Press sur RFI.
Bonjour messieurs et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors dans l'actualité chargée, il faut bien le dire, cette semaine au Proche et au Moyen-Orient, j'ai d'abord retenu l'Irak, on n'en parlait pas depuis plusieurs jours, où un double attentat, vous le savez sans doute, a fait 153 morts, plus de 500 blessés le week-end dernier. Les attaques ont visé le ministère de la Justice et le siège du gouvernorat de Bagdad. On est loin de la calmie qui avait été annoncée par les autorités locales et par l'administration américaine, René Bachmann.
Oui, c'est vrai. On est loin de cette accalmie et cet attentat pose un problème de la même façon que celui qui avait eu lieu il y a maintenant 2 mois pose aussi un problème, c'est celui de la contradiction entre le désir des autorités irakiennes et des Américains de s'acheminer vers une situation à peu près calme, à peu près raisonnable qui irait jusqu'aux élections, les élections étant prévues au début de l'année prochaine, et la contradiction entre ce désir et la possibilité d'avoir un retour à une vie à peu près organisée. Et surtout, il pose le problème de savoir sur quoi va s'appuyer l'actuel Premier ministre pour faire campagne. Parce que jusqu'à présent, son seul argument de campagne, vraiment le seul, j'allais dire le plus important, mais en réalité c'est le seul, parce que sa politique n'a pas été extraordinairement profitable pour l'Irak. Son seul argument, c'était « j'ai rétabli la sécurité, la vie à Bagdad tend vers la normalité ». Il ne va pas jusqu'à dire qu'elle est normale, mais il dit c'est ça. Tout ce qui vient de se passer prouve exactement le contraire.
Contredit, hein, oui. Christophe Ayad, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. Ces attentats arrivent dans un contexte déjà tendu, où la stabilisation annoncée cet été, en fait, est en train de s'effilocher, et plus on va aller aux élections, et plus tous ceux qui ont intérêt à ce qu'elle n'ait pas lieu vont se manifester. Et moi, je crains que dans les semaines à venir, on se dirige vers une nette dégradation de la situation qui forcerait le Premier ministre Nouri el-Maliki à reporter les élections et donc à se conduire d'une manière très peu démocratique, ce que ses adversaires commencent déjà à lui reprocher, et cette attitude renforcerait ce soupçon. Donc j'ai peur qu'on soit parti dans un cycle un peu infernal qui n'est pas encore à plein régime, mais il y a à l'évidence une mécanique qui s'enclenche mal. La loi électorale n'a pas été adoptée. La question de Kirkouk est toujours explosive et je ne vois pas bien comment on va aller vers le mieux, mais plutôt vers le moins bien. Quoi.
Emmanuel Alperin, comment percevez-vous ces développements en Irak depuis Israël ?
Chacun voit évidemment midi à sa porte, et en Israël on analyse, on suit la situation en Irak par rapport aux intérêts israéliens, par rapport à la vision israélienne Proche-Orient, et par conséquent par rapport aux échecs répétés de la politique américaine. Alors échec évidemment manifeste en Afghanistan et au Pakistan, échec vraisemblablement aujourd'hui en Irak, et les Israéliens se demandent ce que cela veut dire pour eux, c'est-à-dire que l'administration américaine semble vouloir se fixer sur ce qui lui semble une possibilité d'obtenir au moins un résultat positif, à savoir le dossier israélo-palestinien.
Oui, on va y revenir justement après.
C'est dans cette perspective-là que l'on voit les échecs américains. Puisque la politique américaine en Irak, en Afghanistan et au Pakistan est tellement peu réussie, alors finalement ça peut se retourner d'une certaine manière contre les intérêts israéliens.
On va revenir justement sur l'aspect strictement israélien tout à l'heure. L'objectif des poseurs de bombes en Irak n'est-il pas, René Bachmann, justement de torpiller, comme le disait tout à l'heure Christophe Ayad, les prochaines élections législatives qui, je le rappelle, sont prévues mi-janvier ?
Ça paraît à peu près clair, bien qu'on ne sache pas du tout qui sont ces poseurs de bombes. Comme d'habitude, Maliki a imputé la responsabilité des attentats aux ex-baassistes et aux gens d'Al-Qaïda, mais bon, ils n'ont pas laissé de signature, évidemment. Ce que je voulais préciser, c'est rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel Halperin par rapport à l'attitude américaine. Il a raison de faire cette remarque, parce que si j'ai bonne mémoire, au moment où les soldats américains ont quitté les villes d'Irak au printemps, je crois que c'était au mois de juin, ouais. Et pour se replier vers des bases à l'intérieur du pays, Joe Biden, le vice-président, est venu en Irak et il avait dit à Maliki, il avait dit publiquement, c'est pas uniquement entre quatre murs, il avait dit publiquement, si le désordre devait recommencer pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, etc., il est évident que pour les États-Unis, ça poserait de façon tout à fait claire le problème du respect du calendrier. Autrement dit, il laissait entendre que si l'Irak replongeait dans le désordre en dépit de l'effort que les Américains ont fait et en dépit du fait qu'ils se sont engagés à se retirer et ils l'ont même commencé, le retrait pourrait être plus rapide. Évidemment, pour l'Irak, c'est pas une perspective positive, le retrait américain. C'est une perspective qui risquerait de revoir le pays plongé dans le chaos d'où il n'est pas encore tout à fait sorti.
Christophe Ayad, sur l'attitude des Américains et la situation pour le moins délicate dans laquelle se trouve Al-Maliki.
Le problème des Américains, c'est qu'il y a une connexion de plus en plus forte entre les conflits. C'est-à-dire que le règlement de ce qui se passe en Afghanistan passe aussi par un retrait d'Irak. Mais un retrait accéléré d'Irak finirait par sonner un échec si jamais ce retrait se faisait dans des conditions catastrophiques, ou enfin du moins d'un retour à l'instabilité. Et Obama ne peut pas se permettre ça. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, en Afghanistan et en Irak, une lecture très attentive de ce qui se passe dans chacun des deux pays par les insurgés et les insurrections. Et il y a une pression extrêmement forte qui s'exerce sur l'armée américaine et ses contraintes que l'on sait aujourd'hui limitées. Et il n'y a pas moyen de déployer plus de monde en Afghanistan sans en retirer d'Irak. Donc, je pense qu'il y a une sorte de connexion, d'interconnexion de ces conflits. Là-dedans, vous ajoutez en plus le problème iranien qui, lui, est pour l'instant beaucoup plus diplomatique, mais qui a des sous-entendus, des soubassements ou des arrière-pensées militaires. Et vous avez effectivement, comme disait Emmanuel Halperin, une superpuissance qui est à flux tendu.
Alors, justement, on va rentrer dans cette problématique qui est interconnectée, j'allais dire, puisqu'un autre scrutin est menacé. Je veux parler de l'élection présidentielle afghane du 7 novembre. Les talibans n'en veulent pas et ils frappent de manière spectaculaire un peu plus chaque jour, hélas. Cette semaine, ils ont frappé l'ONU au cœur de Kaboul, tuant 6 employés étrangers et 2 policiers afghans. Une victime américaine, d'ailleurs, parmi les victimes. Comment organiser un scrutin crédible dans un tel climat de violence, René Bachmann ?
Comment organiser un scrutin crédible dans un pays comme l'Afghanistan, déjà ? Ça pose un gros problème. Quand en plus ce pays est en guerre, une partie est contrôlée par les talibans et le reste est sous un contrôle très incertain de forces étrangères qui vont et viennent, ça paraît une gageure épouvantable. Ce que je voudrais remarquer à propos de ce qui s'est passé à Kaboul, c'est une affaire franco-française. Mais quand même, je voudrais le remarquer, c'est que le ministre Besson nous a expliqué qu'il renvoyait des gens à Kaboul parce que Kaboul était une ville sûre, où ils ne couraient pas de risque, on pouvait donc les renvoyer là-bas. Ce qui s'est passé vient de lui donner une bonne réponse et montre la limite des propos de ce monsieur. Pour revenir au sujet principal de notre discussion, moi je suis très pessimiste sur l'organisation des élections afghanes. D'abord parce qu'on nous avait expliqué, et on l'a vu lorsque le premier scrutin s'est organisé, celui du premier tour, à quel point c'était compliqué de mettre en place le scrutin. Évidemment, il y avait davantage de candidats, mais en fait, c'était pas ça le problème principal. Le problème principal, c'était la distance, c'était la complication, c'était la difficulté, le caractère accidenté du paysage, etc. Pour transporter les urnes jusqu'à chaque point de vote, c'était d'une complication extrême. Il a même fallu utiliser des bourricots. Et c'est pour ce faire, on avait disposé de beaucoup plus de temps. Là, on a très peu de temps, et il y a certes 2 candidats, mais il y a quand même des urnes à installer partout. Donc ça pose pose un très très gros problème. À cela s'ajoute la capacité maintenant des talibans de frapper de façon très violente et très surprenante à l'intérieur même de Kaboul, ce qui change quand même beaucoup la donne. Donc, je me demande si les Américains ne sont pas en train de se poser la question de savoir si la solution, ça n'aurait pas été pour eux. Démocratiquement, c'était très difficile à accepter, mais du point de vue cynique et pratique, peut-être aurait-il dû le faire, pousser à un accord entre Karzai et son principal adversaire, Abdullah Abdullah, pour trouver une espèce de solution de remplacement.
Christophe Ayad.
Déjà, le premier tour n'a pas été extrêmement crédible. Il a fallu un mois et demi, voire deux mois, pour obtenir des résultats. Là, il y a une semaine pour organiser un deuxième tour. Je ne sais pas bien comment on va finir par obtenir des résultats plus crédibles dans un délai moindre. Et j'ai l'impression que là aussi, on a vu qu'un peu à vue, que ça soit au niveau OTAN américain ou Union européenne. Les acteurs occidentaux sont complètement partagés entre les valeurs qu'ils défendent et la nécessité de faire face à une insurrection qui, elle, est en pleine expansion et marque des coups réels sur le terrain, dans le sud, notamment dans le Helmand où la grande offensive a échoué, la grande offensive anglo-américaine, mais aussi à Kaboul de manière peut-être stratégiquement moins importante, mais médiatiquement beaucoup plus forte.
Sur la crédibilité de ce scrutin afghan dans les conditions que nous connaissons, Emmanuel Alperin, quelle analyse, quel regard portez-vous ?
Toujours un regard israélo-centriste, évidemment. L'Afghanistan est loin, mais on fait des comparaisons. Ce qui intéresse beaucoup les Israéliens, c'est les très faibles réactions de la communauté internationale aux très nombreuses victimes civiles des bombardements américains, français, britanniques, italiens en Afghanistan, alors que nous savons ce qui s'est passé pour les bombardements israéliens au Liban et à Gaza. Deux poids, deux mesures.
Vous écoutez Orient Presse hein, sur RFI. Nous sommes en compagnie de René Bachmann, du Nouvel Observateur, Christophe Ayad de Libération et Emmanuel Alperin de la télévision publique israélienne.
Orient Presse sur RFI.
Alors l'autre sujet d'actualité cette semaine, l'Iran qui se dit prêt à échanger le combustible nucléaire et à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les six puissances en charge de ce dossier. C'est une ouverture intéressante pour vous, Christophe Ayad ?
C'est une ouverture ambiguë, comme d'habitude avec l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran est prête sur le principe, mais dans les modalités, elle rend quasiment le principe impossible. Donc finalement, de quoi discute-t-on ? Comme personne ne veut claquer la porte pour l'instant parce que cela poserait évidemment la question de la suite, donc des sanctions, on reste dans un flou artistique. Mais la réponse iranienne, en substance, elle signifie continuer à discuter. Mais alors vraiment, votre proposition, ça ne nous va pas parce que sur 1500 kilos, on veut garder 1100 kilos d'uranium. Donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas lieu de continuer. Seulement, voilà, est-ce que c'est une fin de non-recevoir ? Est-ce que les Occidentaux vont, les six, disons, qui négocient sur ce dossier-là, vont continuer à essayer de pousser pour obtenir un accord qui, lui, serait applicable, enfin, du moins, de leur point de vue ? C'est là qu'est la question. Moi, je suis assez pessimiste aussi, c'est-à-dire que je pense que le régime iranien a gagné du temps. Il s'est donné un peu d'air, en interne aussi, vis-à-vis de sa propre opinion après ce qui s'est passé au printemps et à l'été dernier, enfin à l'été dernier avec la réélection contestée d'Ahmadinejad. Et il a calmé les choses à un moment où les pressions étaient assez fortes. Mais tôt ou tard, on va se retrouver de nouveau face à la question de qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran, faut-il sanctionner ou pas, quelles sanctions, jusqu'à quel point, etc. Seulement, il y aura 2-3 mois qui seront passés entre septembre et décembre, disons.
Et Emmanuel Alperin, depuis Israël, on sait, on en a parlé d'ailleurs sur notre antenne il y a une semaine, il y aurait eu, selon la presse israélienne, des contacts directs entre Israël et les Iraniens sur la question du nucléaire. Alors, quel regard portez-vous sur les derniers développements de cette question ?
Non, il n'y a pas eu de rapport direct. Il y a eu, quelque chose qui vient un peu du folklore, ça peut pouvoir dire quelque chose, mais il y a eu une réunion d'une instance professionnelle, technique, et pour la première fois, le représentant iranien a adressé la parole à la représentante israélienne. C'est intéressant, évidemment, pour les titres des journaux, mais ça ne veut rien dire de très important, de très concret. La vision israélienne de cette affaire est très simple. peut-être trop simple. Mais en tout cas, les Israéliens disent ceci, l'Iran veut une chose, l'Iran veut la bombe. Voilà, tout le monde sait que l'Iran veut la bombe. Et par conséquent, la proposition occidentale qui a été faite à l'Iran et qui a été en substance rejetée par l'Iran n'aurait retardé que d'à peu près un an le programme nucléaire iranien. Les Iraniens ne veulent même pas accepter ce retard d'un an. Par conséquent, nous sommes ramenés au problème précédent. Et le problème précédent, c'est empêcher, comme l'Obama l'affirme, empêcher l'Iran d'enrichir l'uranium en vue d'obtenir un armement nucléaire. Sur ce dossier-là, il n'y a pas eu le moindre progrès. Et par conséquent, l'administration Obama, les pays occidentaux, les pays arabes modérés, sunnites et Israël, se retrouvent dans le même camp, c'est-à-dire dans le camp qui essaye de trouver une solution, soit par pression politique, soit par sanction, soit par ce que vous savez. Et tout le monde espère, bien sûr, qu'il ne faudra pas recourir à ce que vous savez.
Ce que vous savez, bien entendu, chacun aura compris qu'il s'agit d'une frappe militaire contre les installations iraniennes. Votre commentaire, René Bachmann.
Ce que nous savons, cette frappe, d'abord, c'est pas une chose si facile que ça à envisager, y compris du point de vue, c'est pas si facile à envisager du point de vue politique. Ça n'est pas non plus une chose si facile à envisager du point de vue technique. Au mois de juin, j'étais en Israël où j'ai interviewé un ancien pilote de l'armée de l'air qui avait participé au raid de l'armée israélienne contre le réacteur irakien et qui a ensuite été commandant en chef de l'armée de l'air israélienne et qui a, à ce titre, fait acheter les avions qui permettraient un jour de frapper l'Iran. Et ce que m'a dit cet officier, cet ancien officier, c'est que l'hypothèse d'attaquer les sites nucléaires iraniens était une hypothèse très, 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 très risquée. Pour un million de raisons, parce qu'ils sont très nombreux, parce que ça suppose un grand nombre d'avions, parce que ça suppose une technologie très avancée, très sûre et en grand nombre, un grand nombre de missiles, un grand nombre de sites à atteindre, des possibilités de représailles iraniennes qui posent quand même un gros problème pour la population israélienne. Enfin, tout ça pour dire que l'hypothèse, la dernière hypothèse, l'hypothèse que nous savons, est une hypothèse quand même relativement lointaine. Je crois que tout le monde cherche à la repousser le plus loin possible. Moi, ce que je vois là dans les jours qui viennent de se passer, c'est la conformité de l'attitude de l'Iran à ce que nous savons de ce que l'Iran fait toujours, c'est-à-dire tenir deux discours, voire même trois discours,
et gagner du temps.
On le voit notamment le fait de tenir deux discours dans la poursuite des négociations avec les Occidentaux et en même temps Ahmadinejad qui dit en public à Téhéran, vous voyez, nous avons tenu bon, nous restons sur nos positions. Et ça aboutit, paradoxalement, c'est à là que je voulais en venir, à une situation qui n'est pas très favorable pour les Occidentaux dans cette négociation, c'est le fait que l'opposition iranienne, que l'Occident avait tendance à soutenir, commence à dire, oui, regardez, Ahmadinejad flanche devant les pressions occidentales. C'était exactement le contraire de ce qu'il fallait que nous obtenions.
Oui, c'était les propos, ce sont les propos qu'a tenus d'ailleurs Moussavi, pas plus tard qu'il y a deux jours. Hein. Alors, on va passer au territoire palestinien maintenant, c'est toujours l'impasse. C'est hélas toujours l'impasse. Le Hamas annonce qu'il interdira dans la bande de Gaza la tenue d'élections générales, celles qui ont été convoquées par Mahmoud Abbas. Alors, le mouvement islamiste estime que ce scrutin est illégal et inconstitutionnel. C'est ce qu'il a expliqué cette semaine. La réconciliation interpalestinienne n'est pas pour demain, hein, Christophe Ayad.
Ah non, elle est moins que jamais pour demain. C'est-à-dire que au-delà et malgré toutes les proclamations de désir de réconciliation, il n'y a absolument pas, enfin, l'état d'esprit n'y est pas, quoi, ni chez les uns ni chez les autres. Il suffit, moi je reviens de la bande de Gaza où j'ai passé une dizaine de jours, il suffit de parler deux minutes avec un responsable palestinien, qu'il soit Hamas ou Fatah, et immédiatement les griefs ressurgissent. Extrêmement amer, extrêmement violent. La proposition égyptienne était une tentative de réconciliation. Moi, je pense que c'était une tentative surtout de façade, c'est-à-dire que les Égyptiens voulaient se donner le beau rôle, montrer qu'ils servent encore à quelque chose, mais on a reculé de 10 mètres et dans l'histoire, tout le monde est affaibli. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas a été très très affaibli par son attitude confuse et ambiguë à l'occasion du rapport Goldstone et pendant la guerre de Gaza qui remonte au mois de janvier. Quant au Hamas, le prestige qu'il avait pu gagner lors de la guerre en sinon résistant, du moins en échappant au coup de israélienne est en train de s'évanouir face à sa mise en coupe réglée économique et morale de la bande de Gaza, et aussi face à son disons déni de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a certes le mandat de d'Abbas a expiré en janvier dernier, mais le mandat du Hamas lui expire en janvier prochain, et le refus du Hamas de se réconcilier avec le Fatah, puisque c'est lui qui a décidé de ne pas aller au Caire pour signer prévu le 25 octobre l'accord de réconciliation, montre qu'il s'accroche à la bande de Gaza comme à son assurance vie. Donc il y a là-dedans, Israël, bon, a beau jeu proclamé qu'il n'y a pas de partenaire. Effectivement, il n'y a absolument pas de partenaire avec qui négocier quand on a deux frères ennemis qui passent plus de temps à se combattre l'un l'autre face à soi.
Emmanuel Halperine, cet affaiblissement arrange Israël ? On est bien d'accord ?
Oui, bien sûr, oui.
Quelle analyse faites-vous de cette impossible réconciliation interpalestinienne ?
Écoutez, tout le monde la regrette, je crois. Personne en Israël ne l'a appelé de ses voeux. Et le problème, c'est est-ce que malgré tout, monsieur Abbas pourra entamer la négociation avec Israël ? Or, il semble, vous savez qu'il y a eu ces derniers jours des rumeurs sur une éventuelle démission de Mahmoud Abbas. Il menacerait de démissionner. Il en a assez, enfin, on peut le comprendre. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement désagréable, d'extrêmement troublant dans les relations entre les États-Unis, Israël et l'autorité palestinienne. Il y avait des négociations avec les Palestiniens et malgré cela, l'installation d'Israéliens en Cisjordanie, ce qu'en France on appelle la colonisation, continuait. C'est-à-dire qu'on construisait quand même, malgré tout, un certain nombre d'unités de logement ou d'institutions dans les villages et dans les villes israéliennes de Cisjordanie. Or, les Américains ont annoncé qu'ils exigeaient absolument d'Israël le gel des implantations. À ce moment-là, Mahmoud Abbas a annoncé que s'il n'y avait pas gel des implantations comme l'exigeait l'administration américaine, il ne reprenait pas la négociation. Entre-temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, comme René Bachmann l'a dit tout à l'heure, je crois, les Américains ont adopté une attitude plus pro-israélienne, c'est-à-dire comprennent mieux la nécessité pour Israël de ne pas geler complètement la vie dans ces implantations où vivent quand même 300 000 Israéliens. Mais les Palestiniens, entre-temps, ont annoncé qu'il fallait absolument, condition préalable, qu'il y ait un gel. Donc ils ne peuvent pas maintenant revenir en arrière. Cela crée une situation vraiment inexplicable, parce que Mahmoud Abbas ne peut pas se permettre de reculer et de dire bon, d'accord, c'est pas grave que les Israéliens construisent quelques centaines de maisons pendant que la négociation dure. Donc vraiment, on est dans une situation qu'on ne peut pas définir autrement que bloquée.
René Bachmann.
Elle est bloquée, en effet. C'est la seule chose qui soit vraiment claire et qui soit facile à voir. Elle est bloquée, elle est d'autant plus bloquée du point de vue de Mahmoud Abbas que, en effet, pour lui, il est très difficile de revenir en arrière sur la question de l'exigence du gel de la colonisation, surtout après son attitude, ses hésitations, son attitude ambiguë, ses reculades, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Christophe, sur l'affaire du rapport Goldstone. Sa position est très faible de ce point de vue, très compliquée. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, comme on l'a déjà évoqué, c'est la division. Et c'est aussi le fait que pour le Hamas, aller à des élections, c'est, si jamais elles avaient lieu et si jamais elles étaient aussi démocratiques que les précédentes, je voudrais d'ailleurs faire juste une incidente sur ce point, c'est que, en dépit du fait que les Palestiniens sont sous occupation, chaque fois que des élections se sont tenues chez eux, elles ont été incomparablement plus démocratiques qu'à peu près n'importe quelle élection tenue dans le monde arabe. Donc c'est un point d'ailleurs qui pourrait être retenu en la faveur des Palestiniens et d'une certaine mesure des Israéliens, mais surtout des Palestiniens. Dans cette affaire, si le Hamas allait à des élections, il risquerait fort de ne pas s'en sortir bien. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il durcit sa position, il l'assouplit à certains moments et puis il la redurcit. En général, il a plutôt tendance à la durcir qu'à l'assouplir. Mais là, dans les circonstances où nous sommes, il ne veut pas aller aux élections, disons, d'ici janvier, parce qu'il a la certitude aussi qu'il risque fort de les perdre.
Alors, Hillary Clinton, elle s'est quand même rendue à nouveau dans la région ce week-end pour tenter de renouer les fils du dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une mission qui semble impossible, Christophe Ayad, pour Madame Clinton.
Et je ne vois pas bien ce qu'elle a à offrir aux Palestiniens. C'est-à-dire que, à part des pressions, c'est-à-dire que pour convaincre Abbas de retourner à la table des négociations, qu'est-ce qu'elle lui donne en échange ? Or, Abbas est dans une situation tellement mauvaise aujourd'hui que, bon, il peut, comment dire, se soumettre à ces pressions, mais cela ne fera que l'enfoncer encore un peu plus aux yeux de son peuple, qui, de toute façon, ne croit pas à ces négociations. On a vu ce qu'ont donné un an de négociations, parfois extrêmement sérieuses. Je ne mets pas en cause les gens qui étaient autour de la table dans le cadre du processus d'Annapolis. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Absolument rien, à part une augmentation, une accélération de 20% de la construction des colonies en Cisjordanie occupée. Donc, voilà.
Rien à attendre.
Tant que, comment dire, les Palestiniens ne seront pas un minimum réunifié, que représente Abbas ? Qu'est-ce qu'il peut discuter concernant la bande de Gaza ? Or, la bande de Gaza, il n'y a plus d'Israéliens à l'intérieur, mais elle reste occupée au sens technique international du terme, dans la mesure où l'ensemble de ses points d'accès sont, que ce soit par air, par terre ou par mer, sont contrôlés par Israël et sont soumis à un blocus relativement serré.
Donc on a bien compris, Christophe Ayad, rien à attendre de cette visite d'Hillary Clinton. Un mot pour la fin, René Bachmann, rapidement.
Oui, moi je suis tout à fait comme Christophe, je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre de cette visite d'Hillary Clinton, sauf si, au dernier moment, mais je dis ça avec un certain sourire, sauf si au dernier moment, Netanyahou disait, bah, finalement nous avons décidé, nous, que nous voulons nous proposer comme un vrai interlocuteur pour les Palestiniens, nous acceptons à titre très provisoire et très symbolique, le gel de la colonisation pour quelques mois ou quelques semaines. Peut-être que ça serait un geste qui pourrait débloquer quelque chose, mais je n'y crois pas.
Oui, la conclusion avec un certain sourire, nous dit René Bachmann. Ainsi s'achève Orient Presse. Merci à vous trois. Emmanuel Alperin de la télévision publique israélienne, Christophe Ayad de Libération et René Bachmann du Nouvel Observateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Laura Pinto pour la réalisation, à Olivier Richard pour la technique. Prochain rendez-vous avec Orient Presse, samedi, même heure, même fréquence sur RFI.